J'ai choisi ce titre pour mettre l'accent sur la parole, parce que l'humain est caractérisé par la parole, et de l'humanité, de la pluralité et de la liberté, nous en avons en ce moment le plus grand besoin. Je vais témoigner de mon expérience, et je vais mettre un tout petit bémol pour dire que je vais témoigner de mon expérience avec les enfants que j'ai reçus. Je dis ça parce que les troubles du spectre autistique englobent tellement de choses différentes actuellement que, voilà, je prends cette précaution, si vous me le permettez. La parole est au cœur de la problématique des enfants autistes. Cette question de la parole est pour nous une préoccupation permanente, pour nous soignants, même si elle n'est pas la seule, bien entendu. Il s'agit de permettre aux enfants d'avoir accès à la parole et que cette parole ait valeur d'échange. Lorsque j'ai commencé à travailler il y a bien longtemps, ce qui nous frappait d'abord, c'était le retrait relationnel, mais aussi l'absence de langage. Ces enfants silencieux, retirés dans leur bulle, protégés par une carapace, souvent infranchissable, restaient énigmatiques, comme l'a très bien écrit Denis Ribas dans le titre de son beau livre. Nous savons combien la langue, ses mots, sa musique, sa prosodie, sa rythmicité peuvent servir de point d'accrochage pour inscrire ces enfants dans le langage et dans la relation à l'autre, car ils n'y viennent pas naturellement. Et si je dis les inscrire, c'est parce que dans notre positionnement, il s'agit d'aller les chercher, de les engager dans la relation. C'est une démarche qui, je pense, doit être active. Nous savons tous la disponibilité psychique nécessaire et l'énergie libidinale qu'il faut déployer pour voir se produire cette ouverture, fût-elle brève, une petite bribe de signe, un son, un mot en l'air que l'on inscrit dans l'échange, une parole adressée parfois. J'ai souvent vu fonctionner ces moments d'ouverture comme permettant d'embrayer le processus de subjectivation et de construction de la pensée, à condition d'être attentif de façon soutenue, un peu à la manière d'un travail d'orfèvre qui n'engage le mouvement seulement s'il est certain qu'il puisse être supporté par ce qu'il façonne habilement. J'ai choisi de parler de la parole aussi parce que l'état du monde dans lequel nous vivons n'est pas sans incidence sur nos pratiques. Ce monde caractérisé par une accélération hyperbolique du consumérisme conduit la société de consommation à devenir une société de saturation, ce qui a pour effet la négation du manque. Or, le manque est à la racine de tout exercice de la parole. Il en résulte un délitement de notre outil principal, la parole, aujourd'hui terriblement discrédité. Comment pourrions-nous encore soigner si nous ne pouvions plus nous fier à la parole? Il nous faut donc la soutenir, la réhabiliter, comme l'a très bien dit Claude à Lyon, dans son très beau livre « La haine de la parole ». Il faut donc en prendre soin. Il faut que ces enfants soient inscrits dans une parole qui les incarne pour pouvoir un jour parler à leur tour. L'hôpital de jour pourrait être alors considéré comme une petite fabrique d'histoires où chaque événement de la vie quotidienne serait raconté encore et encore, en sorte que ces enfants puissent petit à petit s'identifier à ce plaisir à raconter la quotidienneté. Ce que les enfants autistes, nous le savons, ont tant de mal à faire. Alors qu'est-ce qu'un hôpital de jour peut apporter à ces enfants, alors que ces structures sont franchement menacées de disparaître pour des raisons plus politiques et d'effets de mode que du fait de leur manque de pertinence ou de l'absence de résultats? Laisser disparaître les hôpitaux de jour, c'est prendre le risque de laisser se perdre le soin psychique et avec lui une certaine conception du soin, héritée des pionniers de la sectorisation psychiatrique et de la psychothérapie institutionnelle. Je pense à Roger Mizès, René Dattine, Serge Lebovici, Michel Soulet, Jean-Louis Lang, Amoud Manoni aussi, et à tant d'autres avec eux. Mais pourquoi donc en psychiatrie les évolutions se font-elles avec des périodes de progrès suivies de périodes de régression? Pourquoi la psychiatrie devrait-elle être privée de ses références théoriques à la psychanalyse, même si ce ne sont pas les seules références, bien entendu? Quel est l'intérêt d'un dispositif institutionnel pour ces enfants? En quoi l'institution peut-elle répondre à leurs besoins de soins? Et comment la penser en sorte qu'elle soit au mieux à même de traiter leurs angoisses archaïques et de les aider à s'ouvrir au monde qui les entoure? Lorsque nous avons interviewé Francis Tosti en 92, ça fait un moment, elle disait combien elle enviait notre dispositif de secteur et combien elle aurait aimé travailler avec d'autres pour les enfants qu'elle recevait en thérapie. C'est dire qu'elle soulignait déjà l'intérêt d'un dispositif institutionnel pour ces enfants. Et pour moi, il est extrêmement important d'être dans une configuration collective dans laquelle différentes facettes de l'enfant puissent s'appuyer sur différents soignants, ce que seul un dispositif institutionnel peut permettre. Vous vous souvenez, Geneviève Hague, de cette petite fille dont nous avions tant parlé et qui nous avait tant appris. Elle avait des parents qui, dès la première rencontre, m'ont dit trois choses. Notre fille est autiste, elle a besoin d'un hôpital de jour, il faut la faire parler. Je ne sais pas si on peut encore entendre des choses comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, les choses ont changé. La prescription médicale reposerait plutôt directement et en priorité sur la scolarisation plus que sur la parole. Vous vous souvenez, Geneviève, que pour une simple petite bille, son objet bouche-trou autistique avec lequel elle expérimentait les trajectoires, les articulations et les bordures, elle a, bien malgré elle, mis les soignants dans une guerre d'exclusives, stérilisant toutes leurs initiatives pour l'accompagner. Les uns étaient partisans de laisser se perdre les billes égarées, les autres prétendaient au contraire qu'il était nécessaire de les récupérer pour les lui restituer. Les uns avaient dans l'idée qu'il ne fallait pas la laisser dans le manque, les autres que ça lui serait profitable. L'important, après tout, n'était-il pas que cette bille, ce petit objet de rien du tout, c'était elle, justement, qui l'avait, pour ainsi dire, mis sur la table. J'ai déjà raconté cette histoire en détail, et si je la reprends aujourd'hui, c'est pour rappeler comment la contradiction se reporte du monde interne de l'enfant sur l'équipe, constituée de gens qui, à partir de là, ne s'entendent plus, ne se parlent plus, ne peuvent plus communiquer, comme s'ils étaient devenus à leur tour des billes, des espèces de pions, pris en masse par l'omnipotence de cette petite magicienne. Elle nous a appris, cette petite fille, à lire cette incompatibilité des extrêmes qui caractérise le monde autistique. Elle nous a obligés à considérer nos positions d'exclusives comme le lieu de projection de son clivage interne. Elle nous a poussés à tenir compte de ce clivage traduit dans les transferts et à ne pas nous égarer dans des diatribes interpersonnelles. Elle nous a obligés à repenser le dispositif institutionnel parce que l'institution s'était mise à fonctionner en miroir vis-à-vis d'elle. Son clivage s'est reporté sur l'équipe soignante, laquelle s'est mise à fonctionner, à jouer une scène qui était le reflet de son monde intérieur, un monde fait d'exclusives et de sentiments extrêmes. Pour elle, nous avons inventé un espace intermédiaire que nous avons nommé « groupe d'accompagnement ». Ce petit groupe réunissait quelques soignants autour du référent pour servir de sas, de filtre, si vous voulez, en quelque sorte, à la violence du monde interne de l'enfant contenu dans ce clivage et transféré sur l'équipe. Alors, que peut faire une équipe dans une telle situation? Saisie par la force de tels enjeux et par leur répétition, elle s'interroge sur ce qui appartient à l'enfant, sur comment ne pas renforcer le mécanisme autistique par sa réponse en miroir et comment inventer un praticable, j'emprunte ce terme à Ginette Michaud, qui amène l'enfant sur une autre scène. C'est pour cela qu'il vaut mieux être plusieurs, à condition toutefois qu'un travail de liaison et d'harmonisation soit une priorité de l'équipe. Que se passe-t-il dans une réunion lorsqu'on constate les effets de clivage ou de morcellement en parlant d'un enfant? Souvent, chaque soignant dit quelque chose, un petit bout, différent de ce que dit un autre, comme si chacun avait hérité d'un morceau, un morceau de corps, un morceau de discours. Le groupe des soignants se trouve alors porteur des éléments clivés ou dissociés du monde interne de l'enfant. Et lorsqu'il travaille, ce groupe de soignants, il peut servir d'espace psychique à l'enfant pour lui redonner de l'unité. Notre souci est de relier les soignants entre eux afin de redonner unité à un univers psychique disjoint, ce que Jean Houry a appelé constellation transférentielle comme étant un des outils majeurs de la psychothérapie institutionnelle. Ainsi, l'équipe se constitue en collectif soignant, ce qui n'est pas une collection d'individus, à côté les uns des autres, mais un ensemble de soignants articulés, engagés et responsables de leur acte de soin, partageant un langage commun avec des règles de fonctionnement définies ensemble, sous-tendues par un souci démocratique. La démocratie, en l'occurrence, c'est l'engagement de chacun en tant que sujet qui ne se cache pas derrière un statut ou une fonction. C'est aussi, de mon point de vue, l'accès à la connaissance pour tous. Et donc, dans le travail de cette équipe, il y a un souci permanent de formation, de se tenir au courant de tous les travaux de recherche et de toutes les avancées, et de les rendre accessibles à tous. Cet enfant-là, cette petite fille aux billes, nous avait fait faire un saut qualitatif. C'est ainsi qu'elle a pris la parole. Jusque-là silencieuse, elle s'est mise à dire des mots, d'abord des mots composés, des mots doubles. Chaque mot était assorti de sa bille ou de la lune. Il y avait Maison Lune, qui est le nom de l'hôpital de jour dans lequel elle venait, qu'elle répétait à la cantonade. Puis Maman Lune, Bille Lune, Maman Lune, ou bien Bonbon Bille. C'est ainsi que dans son langage, on retrouvait ces deux moitiés, si ce n'était qu'elles n'étaient plus clivées, mais reliées par un trait d'union. Cet objet autistique lui a permis d'abord d'expérimenter la troisième dimension. C'est ensuite en le nommant qu'elle a pu lancer son regard. Et petit à petit, ses mots sont devenus polysémiques, son langage a pris de la profondeur et sa pensée est devenue plus souple. Elle s'est mise à parler et à dialoguer, puis elle a même inventé des jeux symboliques pour signifier les pertes et les retrouvailles. Cette histoire dont je ne vous livre que quelques bribes m'a conduite à faire en sorte que la structure du langage soit inscrite dans le dispositif institutionnel. Et lorsque Jacques Ockmann, auquel on doit beaucoup, nous dit qu'il faut une institution, que s'il faut une institution, ce doit être avant tout une institution mentale, c'est-à-dire une certaine façon de concevoir le soin qui repose sur un fond théorique, lequel doit permettre de relier entre eux des événements en un tout cohérent et transmissible. Eh bien, il met l'accent sur la narration. Ce savoir narratif qui n'est ni technique, ni scientifique, n'est-il pas une façon fiable d'inscrire la structure du langage dans l'institution? Et d'ailleurs, Jacques a travaillé avec des enfants dans un CMP sans hôpital de jour. C'est bien la preuve que ce n'est pas la forme administrative de l'institution qui est la plus importante, mais sa conception, c'est la façon de la concevoir, de la penser, de la structurer. Alors le travail clinique m'a donc appris que le monde interne de ces enfants était clivé ou morcelé et que leur façon d'être était caractérisée par une tendance à tout homogénéiser, c'est-à-dire à faire que tout soit toujours pareil, ou à tout scinder ou morceler. Il m'a appris aussi que leur mécanisme de défense était vraiment spécifique et avait des effets toxiques. L'attaque en vue, ces mécanismes de défense qui ont été si bien décrits par Wilfried Bion, Mélanie Klein, Francis Tolstine et d'autres. L'attaque envieuse qui défait nos capacités de penser et notre plaisir à inventer. L'identification adhésive qui isole les soignants, le soignant. Et l'identification projective qui nous fait éprouver pour notre propre compte leurs affects insupportables. Et le travail institutionnel m'a appris enfin que les sentiments éprouvés par les soignants sont complexes et fonctionnent en miroir de l'enfant. Alors il peut s'agir d'un sentiment d'intrusion, le soignant est parasité par l'enfant, il en rêve la nuit, il croit l'entendre quand il n'est pas là, il craint le pire, c'est comme si d'une certaine façon l'enfant se débarrassait en nous de tout ce qu'il torture et qu'il ne peut plus abriter en lui. Un sentiment de vidange avec un épuisement complet, avec cette impression de succomber devant le puissant fond de l'enfant. Les limites du soignant sont constamment menacées d'être franchies. Son attitude compréhensive peut être transformée en bêtise ou colère aberrante, etc. Un sentiment d'incompétence, d'inanité, le soignant ne comprend plus rien, se dévalorise, se sent incapable, ne sert plus à rien. Enfin, parfois, un vertige, un malaise, du non-sens. Nous soutenons l'idée que tous ces sentiments sont un moyen de connaissance pour appréhender ce que peuvent vivre ces enfants, qui les fait terriblement souffrir et qui les déforme. Je pense à une soignante, pressée de parler en réunion, elle se met à nous raconter en sanglotant que la veille, alors qu'elle avait quitté tranquillement le service, elle fut prise d'une angoisse vertigineuse en arrivant chez elle, l'angoisse d'avoir laissé le petit garçon avec lequel elle avait passé l'après-midi, l'angoisse de l'avoir oublié dans le service. Elle nous a raconté qu'elle avait eu une sorte de trou. Elle n'arrivait pas à se souvenir du départ de cet enfant à la fin de la journée. Elle ne pouvait pas se remémorer, se repasser le petit film du départ, de le revoir. Elle a eu une sorte de malaise à l'idée de l'avoir laissé dans le service, de l'avoir abandonné, perdu, et qu'il fût mort. Ce qu'elle nous a raconté là montrait à quelle tension psychique les soignants peuvent être soumis. Et ce qui est remarquable, c'est que l'émotion éprouvée par la soignante avait à voir avec l'histoire de cet enfant. Elle s'est mise à être habitée par quelque chose de lui. Plus jeune, ce petit garçon autiste était parti se noyer. C'est comme cela que sa mère en parlait de façon très active. Il avait alors passé 48 heures dans le coma. Le fait d'en parler aide la soignante à digérer cette forte émotion qui est accueillie par l'équipe. Cette émotion peut être traduite par l'idée d'une disparition, d'une sorte de fading du sujet. Cette traduction, faite dans le travail de l'équipe, modifie la position subjective de la soignante et l'enfant, au lieu de coller à une image trop connue de lui, pourra alors s'identifier au mouvement qui s'est opéré chez la soignante. C'est ainsi que par la suite, il s'est mis à dire des phonèmes qui tentaient d'exprimer son nom de famille. Il s'est mis véritablement à exister, c'est comme ça que ses parents en ont parlé. Je me souviens aussi d'un jour où nous étions réunis pour parler d'une séance baignoire avec la soignante du petit Jacques. Ce petit Jacques, qui dans des séances baignoires développait tout un vocabulaire scatologique et préparait soigneusement des potions empoisonnées, de l'eau pourrie, à enfourner dans sa soignante, laquelle bien sûr se prêtait au jeu, et quand je dis au jeu, entre guillemets, car ce n'était pas drôle du tout, c'était même plutôt tragique. Cet épisode ainsi résumé s'est développé sur de nombreux mois, laissant sa soignante défaite, désespérée. Nous avons pensé que ce petit Jacques abritait en lui un objet abîmé, cassé, qu'il était à la fois cet objet abîmé. C'est dans cette gymnastique, à mon avis, à la fois d'être et de détenir en soi l'objet que l'on reconnaît la psychose. Par une sorte de défense maniaque, il le projetait à l'extérieur, en faisant jouer à sa soignante le rôle de cet objet déprimé. Or, la soignante se mit à vivre cette destruction, à se sentir déprimée, à ne plus rien comprendre dans ce qui se passait, à se sentir incapable, prête à tout abandonner. Ce sentiment de dévalorisation éprouvé par elle était tellement fort que dans ce travail du petit groupe d'accompagnement, je me suis retrouvée plus tard, chez moi, dans la douche, envahie d'une immense peine, avec l'impression d'être inondée de larmes et de partir avec l'eau du bain, une sorte de vertige, de vacillement, d'étourdissement, sentiment immédiatement relié à cette séance. Dans cette séquence, nous voyons que la soignante se trouve porteuse de la charge émotionnelle que l'enfant ne peut plus abriter en lui. Et je me trouve à mon tour porteuse du sentiment dépressif et du sentiment d'inutilité de la soignante. Cet effet d'emboîtement permet de contenir les débordements successifs des angoisses de l'enfant dans sa soignante et de la soignante dans un autre soignant, puis dans le collectif qui est en toile de fond. Les soignants sont les porteurs des projections archaïques des enfants. Ces projections se métabolisent dans le travail de l'équipe qui est structurée pour les accueillir, et cette opération modifie la position subjective du soignant dans son rapport à l'enfant, et c'est cela qui fait traduction. Ce qui insiste, ce qui se répète dans le comportement cherche une issue, une traduction qui soit assimilable pour l'enfant. L'idée est de transformer un comportement répétitif, insistant, en un message chargé de sens. Et ces exemples montrent, on pourrait en raconter plein, et vous en avez sûrement plein dans votre expérience, ces exemples montrent les tensions auxquelles ils sont soumis, les soignants, les dangers de vidange, de collapsus intérieur, de mort imminente, disait si subtilement Tony l'aîné. Et cela montre chez l'enfant la dualité entre le dedans et le dehors, entre l'être et les sensations, entre l'enveloppe et le sujet. Notre devoir, disait encore Tony l'aîné, est de rester vivant, de rester créatif face à cet enfant, et c'est la chose la plus difficile au monde. Alors à partir de là, comment faire en sorte pour que le dispositif institutionnel puisse permettre aux soignants de penser le soin et de rester vivant et créatif? Comment faire pour que les soignants laissent la place à l'émergence de ces choses archaïques plutôt que de les refouler, de les ignorer, si vous voulez? Et comment faire pour qu'ils puissent bonifier et transformer ces angoisses en un récit qui puisse être restitué à l'enfant sous une forme compréhensible et assimilable pour lui? Eh bien, il faut sans doute cultiver une certaine ambiance. Cette ambiance, cette atmosphère institutionnelle, aurait pour fonction essentielle de favoriser l'activité de pensée et de soutenir la narration. Notre système institutionnel pourrait se représenter comme le montage des poupées gigognes qui s'emboîtent l'une dans l'autre. Ainsi, il y a le soignant qui porte l'enfant dans ses pensées comme on porte un enfant dans ses bras, puis il y a le groupe d'accompagnement qui porte le soignant, qui porte l'enfant, puis il y a le collectif qui porte le groupe d'accompagnement et le soignant. C'est un holding du holding, dirait Claude Allègre. Pour porter un enfant, il faut se sentir porté soi-même. Ajoutons à cela la régulation et les systèmes de supervision clinique et de reprise comme en couture des ateliers thérapeutiques. Et l'ensemble constitue un dispositif qui permet aux soignants de continuer à penser et à se tenir face à cet enfant. Cet ensemble définit un cadre de pensée. Autrement dit, tous ces emboîtements permettent de contenir la violence inhérente aux angoisses archaïques et permettent de relier les différents éléments épars pour construire un récit qui pourra être restitué à l'enfant. Dans cette optique, le soignant traduit les signes que lui adresse un enfant dans la perspective d'aller le raconter à d'autres. Il s'y prépare. De même que la mère accueille les projections archaïques de son bébé pour les transformer et les lui restituer sous une forme détoxiquée, le soignant reçoit les éléments pulsionnels de l'enfant, les traduit pour les raconter aux autres. Dans les deux cas, la construction de la pensée passe par la rêverie d'un autre. C'est, vous connaissez bien, la fonction détoxicante que Wilfried Bion a appelée fonction alpha. On pourrait même parler de fonction alpha au carré, n'est-ce pas Claude ? La rêverie, c'est ce qui fait référence à cette capacité des mères à détoxiquer, à bonifier l'inconfort du bébé, c'est-à-dire les éléments bruts de réalité. Un bébé ne fait pas que développer son organisme et des comportements, il développe aussi son appareil à penser les pensées, à digérer les émotions, et cela est très complexe, et c'est ça qu'on appelle l'intériorité psychique, la vie psychique. Et comme je l'ai dit plus haut, le soignant est intoxiqué par ce que l'enfant dépose en lui. Il faut donc qu'il soit soutenu par une équipe. Et il faut que cette équipe soit aussi soutenue par l'institution et au-delà, par l'appareil politique et social, ce qui n'est pas bien le cas actuellement. Je le répète, celui qui porte ne peut porter que parce qu'il est porté par d'autres. C'est ce que j'ai dit plus haut, le holding du holding. Et lorsque les soignants se réunissent, ils partagent ce plaisir à échanger, ils ont cette sorte de goût à mettre en mots. C'est une forme de culture et en histoire, donc cette forme de goût ou de culture à mettre en mots et en histoire ce qu'ils ont vécu avec l'enfant. C'est ce plaisir à raconter aux autres dans ces moments d'échange avec l'équipe qui sert à réalimenter la rêverie des soignants et à métaboliser les angoisses archaïques. C'est le rôle des réunions. Elles permettent cette mise en récit de la quotidienneté. Les soignants y passent du temps à construire avec des signifiants les émergences pulsionnelles des enfants. Et tout cela repose bien sûr sur un fond théorique, sur des concepts avec lesquels on peut jouer sans trop se prendre au sérieux. Rêverie, traduction et mise en récit seraient les trois points d'ancrage de notre travail soignant. Et j'aime à dire souvent, certains qui me connaissent le savent, en paraphrasant Francis Tustin, que l'atmosphère institutionnelle doit être boyante. Boyante, c'est la qualité qu'elle disait être nécessaire à tous ceux qui veulent traiter les enfants autistes. Et vous savez que les Anglais disent que quelqu'un qui est boyante, lorsque sa gaieté, son énergie, son entrain vous portent comme une bouée. A boy, c'est une bouée. vous soutiennent et vous épaulent à la façon d'un solide et sécurisant holding. C'est une fonction que Pierre de Lyon appellerait phorique, une précieuse euphorie qui vous porte et vous soutient. Et cette atmosphère institutionnelle peut être porteuse pour les enfants si elle est faite de soutien, de sens et de vérité. Il s'agit de créer les conditions d'une rencontre entre la souffrance d'un enfant et le désir d'un soignant. Jacques Lacan l'écrit en utilisant l'ancien français « bon heure », c'est la bonne rencontre comme la bonne fortune, comme une chance favorable, si vous voulez. Car la rencontre avec les enfants autistes est plutôt heurtante ou heurtée du fait du défaut de construction de leur appel psychique, les laissant souvent aux prises avec une pulsionnalité débordante. Nous savons combien, chez eux, l'excitation se décharge dans le corps, avec les automutilations par exemple, faute d'une liaison psychique convenable. Soutenir une atmosphère désirante n'empêche pas de tenir compte des exigences inhérentes aux soins intégratifs, c'est-à-dire qui incluent diverses approches éducatives et rééducatives. Et soutenir un tel fonctionnement institutionnel implique de prendre soin des coordinations et des articulations avec les espaces pédagogiques, l'école et les autres activités parascolaires. Voilà ce que la psychothérapie institutionnelle peut apporter à ses enfants. Si l'institution, quelle qu'elle soit, fonctionne en miroir de l'enfant, plutôt que d'en faire un miroir déformant qui viendrait corriger ses défauts, elle peut être une image en mouvement dans laquelle l'enfant peut reprendre inlassablement ce qui lui permet de trouver de nouvelles voies de créativité et d'épanouissement. Elle n'est pas instituée une bonne fois pour toutes, elle s'institue et se révèle et se crée chaque jour en fonctionnant. Elle se réinvente pour chaque enfant. Elle est du côté de l'instituant, nous dirait Jacob Mann, et le gérondif est utilisé pour mettre l'accent sur l'action en cours. Elle est du côté de l'éros et du vivant. Voilà comment inscrire la structure du langage dans l'institution. C'est repérer les signes, les traduire en signifiants, puis articuler les signifiants en phrases qui obéissent à une ponctuation et mettre les phrases en histoire. Il faut aussi que l'institution soit métonymique, c'est-à-dire qu'un élément en entraîne un autre par contiguïté, et métaphorique, c'est-à-dire qu'elle puisse faire rêver. Et dans l'institution, la syntaxe, c'est l'ensemble des règles et des théories qui font que chacun sait à quoi se référer. Voilà, se soucier de la vie psychique des enfants autistes pour les aider à bonifier, à métaboliser, à transformer leurs angoisses si particulières et invalidantes n'empêche pas de prendre en compte aussi leurs particularités sensorielles et comportementales, d'adapter pour chacun nos propositions de soins nourris par les différents champs de compétences et de recherche, et d'articuler nos actions aux autres actions pédagogiques, comportementales, cognitives et rééducatives. Je vous remercie.